Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
C'est comme ça. Chaque début de semaine, le lundi, je me dis que si je commence l'émission à l'heure, j'atteins déjà quelque chose et je m'en félicite d'ailleurs. Je crois même entraîner un peu l'auditeur de l'autre radio avec moi dans ce sentiment de réussite. On pourrait presque se donner comme ça ensemble des gommettes pour tout ce que l'on fait de bien. Mais je crois que l'on est déjà un peu sur autre chose. Commencer à l'heure, c'est bien. Commencer impactant, je peux le travailler, je le ferai, faites-moi confiance. Aujourd'hui, on ne va pas parler développement personnel, mais se plonger dans l'art, dans la culture qui nous occupe toujours merveilleusement bien à la rentrée en septembre. Et même encore un peu plus loin, et c'est pas mal, dans cette émission, vous faire rencontrer les différentes équipes, les différentes identités de chaque lieu de culture du territoire. Et donc de tout un tas de choses comme ça qui nous fait du bien, nous touche, nous fait grandir. C'est comme ça que j'ai bien envie d'en parler avec vous pour ce début de semaine. Et donc aujourd'hui, à notre micro, ce sera l'équipe du kiosque à Mayenne qui nous fera en quelque sorte une mise en bouche de cette nouvelle saison culturelle qui démarre, et ensuite on fera en quelque sorte un grand écart. En tout cas, on prend un peu la route pour aller dans le sud Mayenne, à Château-Gontier, découvrir les nouveaux locaux de thérapie familiale, accessibles aujourd'hui à tous. On en profite surtout pour rencontrer le docteur Djebar Kamal, qui nous explique le fonctionnement de ce service de santé mentale rattaché au centre hospitalier de Laval. Et puis, si je vous parle de grand écart, c'est aussi et surtout parce qu'un lundi sur deux, on est un peu plus sportif. En tout cas, on se tient au courant de ce qu'ils sont avec notre chroniqueur Mathieu et son journal du sport local. Mais voilà, je vous le disais, aujourd'hui on vous parle de spectacle vivant, d'art au sens même plus large d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui à mon micro, l'équipe du kiosque de Mayenne, qui est un centre d'action culturelle de Mayenne Communauté. Donc nous sommes en septembre encore, le 30 septembre précisément, et en ce début d'année, il est évident que l'on fasse un peu le tour de l'ensemble des programmations du territoire. Donc c'est l'occasion de découvrir des structures, des lieux que peut-être vous ne connaissez pas ou peu. Ensemble, nous aurons en quelque sorte un avant-goût de ce qui nous attend tout au long de l'année. Et comme aujourd'hui, nous sommes avec le kiosque de Mayenne, je ne suis absolument pas seule pour parler de cette programmation, puisque je suis avec Mélanie Goujon, coordinatrice spectacle vivant, Julie Duarte, coordinatrice d'atelier à l'école d'art plastique qui se trouve à la Visitation, et puis avec également Marion Lemonnier, coordinatrice des expositions du centre d'art contemporain Le Kiosque. Alors pour commencer, mesdames, je me dis que l'on peut peut-être dire quelques mots sur Le Kiosque pour l'auditeur de l'autre radio qu'il ne connaîtrait pas. Mélanie.
Le kiosque, c'est une saison spectacle vivant qui a lieu à Mayenne et aussi sur Mayenne Communauté et dans les villages alentours. C'est aussi un centre d'art contemporain avec les expositions à la Chapelle des Calvériennes et l'atelier l'école d'art plastique.
On en vient souvent à poser un peu les mêmes questions pour ces débuts de saison. Et en même temps, ce sont des questions qui ont du sens quand on se demande s'il y a un fil rouge sur l'ensemble de la programmation, une identité que vous voulez mettre en avant.
Donc on est sur une programmation qui est beaucoup plus pluridisciplinaire. Et donc dans cette volonté, on a convié la compagnie Brume, qui est une compagnie nantaise et qui a une pratique à la fois du Super 8, de la broderie et du spectacle documentaire, à venir sur 2 ans faire une création sur le territoire. Donc ils vont là à la rencontre des habitants. Et puis elles auront eu un spectacle dans la saison et une exposition. Donc le spectacle, c'est Vivante. Ça aura lieu le 5 juin à 20h30 avec un départ à la Chapelle aux Riboux.
Et Marion, ce n'est pas tout d'ailleurs avec ces artistes.
On profite aussi de la présence de Mathilde Monjanel et Louise Aucher pour sortir de leur grenier tous les décors qu'elles ont réalisés en collaboration avec des artistes plasticiens. Donc ça sera une exposition hors les murs, la première du Centre d'art contemporain. Ça se situera à la Chapelle aux Riboux, dans le Family Cinéma qui va réouvrir les portes spécialement pour cette exposition. Donc ça sera un chouette moment pour découvrir vraiment tout l'historique, hein, les 10 dernières années de création de spectacles, donc les collaborations avec les artistes dont je parlais, mais ça sera aussi l'occasion de commencer à écrire des nouveaux projets avec les publics du territoire.
Par rapport aux résidences, il y a une augmentation du temps de présence des artistes cette année.
L'idée, c'est de pouvoir aussi comme ça vraiment favoriser la rencontre, d'avoir des temps un peu de... on n'est pas que spectateur, mais on peut être aussi un peu acteur de cette programmation-là, par des ateliers, par des rencontres, par des temps un peu voilà, qui sortent de la représentation ou de l'exposition classique, quoi. On va dire qu'il y a quand même vraiment un volet comme ça, action culturelle, qui est au centre un peu de notre activité et qu'on veut vraiment continuer à développer et à faire exister à travers des partenariats avec... d'autres acteurs culturels, avec la volonté un peu d'aller croiser les publics sur leur lieu de vie aussi, dans les écoles, de faire venir aussi vraiment le spectacle à l'intérieur des structures. Et voilà, je pense que par là, on essaie de renforcer un peu cette présence et cette manière de travailler avec les artistes.
Et alors, voilà, un auditeur qui ne connaîtrait pas forcément encore la saison du kiosque, qui ne serait pas forcément encore penché sur cette programmation, comment est-ce que vous le conseillez de regarder? Quels sont les premiers temps forts, peut-être, sur lesquels il peut se pencher?
Le premier gros temps fort du kiosque, c'est 53 tours. Donc 53 tours qui a lieu tous les deux ans en alternance avec Nuit Blanche. Donc on propose au public d'embarquer dans un bus et d'aller découvrir 4 à 5 propositions artistiques dans des lieux atypiques dans différentes communes de Mayenne Communauté. Donc ils embarquent pour à peu près 3 heures à la fois pour découvrir du spectacle ou des expositions ou des nouvelles formes un peu plus transdisciplinaires.
53 tours a lieu donc du 4 au 6 octobre et donc ça donne un avant-goût de ce qui nous attend pour le reste de la saison.
C'est ça, ça permet de découvrir quelques extraits, surprises, de choses qu'on verra un peu plus tard.
Et donc une première exposition d'art contemporain en novembre.
Donc on inaugure les expositions art contemporain à la Chapelle des Calvériennes avec une grande exposition de Julie Fortier, qui est une artiste basée à Rennes et qui va vraiment nous proposer une exposition immersive. Elle fait un grand travail autour des odeurs, donc ce sera des installations olfactives qui vont générer en nous des réactions, c'est tout un travail autour de la mémoire, des relations entre les couleurs, les textures, les odeurs, voilà, je vous laisse découvrir.
Comme on parle de la programmation des expositions, les artistes que l'on pourra découvrir, comment est-ce qu'ils ou elles ont été choisis? Est-ce qu'il s'agit d'artistes coup de cœur, attendus, ou plus un choix de thématiques abordées qui ont été ciblées?
Alors on fait l'invitation à des artistes effectivement dont on a vu le travail, en tout cas avec mes collègues, mais aussi et surtout on travaille avec les bénévoles de l'association. On a tout un travail avec l'association, on a ouvert des chantiers, donc ce sont des réunions qu'on fait tout au long de l'année pour vraiment investir les bénévoles dès le début des projets. Donc c'est effectivement du repérage d'expositions ou de spectacles ensemble. On peut y parler scénographie, budget. Voilà. Ensuite, les bénévoles sont là aussi sur les temps de montage des expositions. Ils peuvent rencontrer les artistes, échanger avec eux. Ils font vraiment partie des choix, en fait.
En fait, c'est un peu ça l'identité aussi du kiosque, c'est une très forte implication des bénévoles qui aussi orientent un peu toute cette programmation.
Tout à fait, exactement. Et ça nous tient vraiment à cœur.
Quand nos auditeurs vont regarder cette programmation, c'est bien de savoir qu'il y a un système d'abonnement avec des tarifs dégressifs.
C'est ça. Alors, en fait, à partir de 3 spectacles achetés, en fait, on bénéficie d'un tarif dégressif, un premier. Et ensuite, dès qu'on dépasse plus de 5 spectacles, donc ça veut dire on peut aller jusqu'à la totalité de la programmation si on a envie, on a un autre tarif dégressif. En fait, on ne fonctionne pas avec un abonnement où il faut payer une somme et ensuite on peut bénéficier de l'abonnement.
Donc ça vaut le coup de regarder vraiment l'ensemble de la programmation et de voilà, commencer à cocher les cases, quoi.
De sélectionner ce qu'on a envie de découvrir. Et on a un troisième abonnement qui, lui, est l'abonnemino, qui est réservé aux enfants de moins de 10 ans accompagnés d'un adulte. Donc c'est aussi un tarif préférentiel pour eux à partir de 3 spectacles.
Et donc pour terminer, on peut quand même parler d'un petit jeu qui est lancé autour du visuel de la saison.
C'est ça, tout à fait. C'est une série graphique qui a été pensée par Sixtine Gervais, qui fait partie de l'atelier Dubourg. Et elle repartit de cette série graphique pour nous faire une proposition de plaquettes. Et en fait, on est en fait sur une planche de stickers vide. Et donc sur toute la saison, on pourra récolter les stickers à chaque événement. Et il y aura aussi des stickers qu'on appelle les stickers ultra qui permettront de gagner des lots.
En se rendant en fait sur les différentes représentations, à chaque fois on peut repartir avec un sticker.
C'est ça, on peut repartir avec un sticker et avoir une surprise ensuite.
Et voilà, dans quelques instants, ça ne sera pas le micro-trottoir de la semaine. Non, il se décale, c'est le retour de la revue de presse du Haut-Anjou. Mais avant ça, pourquoi pas une pause avec nos voisins belges? C'est un duo que j'aime beaucoup, il s'agit de Colt. Ils sont d'ailleurs venus au VNB Fest cette année, vous les avez peut-être découverts en live sur scène. En tout cas, tout de suite, on écoute K.O. de Colt. Écoutez.
On n'est pas loin d'un désaccord, je préfère les remords. plutôt qu'un vrai corps à corps. Je fais partie de ces gens sans effort qui préfèrent courir que l'ego, qui préfèrent mourir pour les autres, qui espèrent qu'on vive tous égaux, mais qui ont subi tous les torts, piétinés par tous les plus gros, ayant pour seule arme les mots, mais n'auront jamais les propos pour changer un fusil d'épaule. Moi, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? J'ai cédé le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. J'ai cédé. Percevoir une lueur dans les nuages. Ah, j'ai cédé le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. Mais moi, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai grandi sans savoir pourquoi, j'ai jamais décidé pour moi. J'ai fait qu'entasser plus de poids, sur un corps toujours plus étroit. Brisé par les tonnes de regrets, attiré par les pires extrêmes, rongé par tous ceux qui m'effraient. J'ai sombré au plus bas, le chaos m'a ouvert ses bras. Je t'avais prévenu que j'irais mal, je t'avais prévenu que j'irais mal. Mais j'ai retenu tes paroles, besoin du pire pour le réveil. Besoin du pire pour le réveil, besoin du pire pour le réveil. Besoin du pire pour le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. J'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu le contrôle contre les autres. Ici j'ai perdu mon regard, brouillé par l'orage. Moi je peux toujours apercevoir une lueur dans les nuages. Ah, j'ai séduit le chaos, chaos, chaos. J'ai perdu. J'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de réconfort. J'ai besoin d'une âme tranquille. Comment vivre en restant fort? Pourquoi c'est si difficile?
Je crois très souvent, même beaucoup, je croise très souvent, même beaucoup, trop souvent, des auditeurs de l'autre radio me demandant davantage de nouvelles de ce qu'il se passe dans le Haut-Anjou. À cela, je me dois de vous annoncer le retour de la revue de presse de votre hebdomadaire, justement le Haut-Anjou. Une revue de presse que l'on va retrouver ensemble chaque lundi. Le micro-trottoir ne disparaît pas, il prendra sa place donc dans cette émission le jeudi. Voilà, beaucoup d'informations déjà, et bien soyez attentifs puisqu'on fait le point sur les deux sujets à la une dans votre hebdomadaire et on commence à quand avec des cloches qui ne sonneront plus pour la messe dominicale. Et oui, désormais les fidèles devront se rendre à Louroux-Béconnet chaque dimanche matin à 10h30, une décision qui ne fait pas l'unanimité parmi les fidèles. On continue et termine à Château-Gontier avec le Théâtre des Deux Rives qui fête cette année ses 40 ans et en beauté avec une soirée spéciale cabaret au garage le samedi 5 octobre à 19h, l'occasion de partager un moment convivial, de découvrir ou redécouvrir la dernière création de l'atelier adulte ainsi qu'un spectacle de la compagnie Pacapaz portant le titre de Mentabulation. Ce n'est pas un cadeau, ce titre, pour un lundi. Je le rappelle que votre hebdomadaire Le Haut-Anjou est disponible en kiosque chaque vendredi de chaque semaine. Mais nous, on continue et pour ça, on va dans le sud Mayenne avec de nouveaux locaux pour le centre de thérapie familiale à Château-Gontier. Depuis ce mois de septembre, en effet, le nouvel espace Place de la Mairie est plus accessible, notamment pour des personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas auparavant pour ce service du pôle de santé mentale du centre hospitalier de Laval. Ce service de thérapie familiale, vous ne le connaissez peut-être pas, il est pourtant présent dans le département à Laval, Mayenne et Château-Gontier et accueille chaque année plus de 200 familles en Mayenne. On écoute tout de suite le docteur Kamal Djebar nous parler de son fonctionnement et du manque de médecins.
Ça s'adresse en fait à toutes les familles et les couples en fait qui peuvent traverser à un moment donné de l'existence des épreuves. et des moments compliqués, donc qui font que comme ils sont complètement immergés dans leurs problèmes, ils n'ont pas de recul par rapport à cela. Donc ils vont travailler sur ce qu'ils ont pu accumuler tout au long de leur vie comme compétences, et auxquelles ils n'ont pas accès tout de suite en fait, pour pouvoir, dans un milieu et dans un espace qui est neutre et bienveillant, petit à petit, pouvoir affronter ce qu'ils traversent en ce moment, parce que le principe même en fait de la vie, c'est celui-là, c'est celui en fait du changement auquel on est tous soumis de toute manière, et comment s'y adapter petit à petit et trouver les bonnes solutions, généralement qui ne viennent pas d'ailleurs que d'eux-mêmes. Hein. Ensuite, c'est les accompagner dans leurs compétences et pas du tout celles des thérapeutes. Ce sont des équipes qui sont pluridisciplinaires, puisqu'on y retrouve aussi bien des psychothérapeutes psychiatres que des psychologues, psychothérapeutes qui ont été formés, ou des infirmières, des assistantes sociales. Donc c'est un petit peu toutes ces personnes qui peuvent intervenir auprès des familles et d'éducatrices parfois aussi. Alors comment ça se passe? Les familles sont reçues dans cet espace-là. Il leur est expliqué comment procède la thérapie familiale, qui est quelque chose qui remonte à très loin en fait. La thérapie systémique, c'est quand même les années 50, hein, avec les premières équipes américaines, hein, de Palo Alto. Elles se regroupent au niveau de cet espace-là. On leur explique que derrière la glace Santin, des personnes sont là, elles leur sont présentées avant, dans le cadre du protocole, elles sont présentées à toute la famille pour leur expliquer qu'elles sont derrière, pour pouvoir voir comment l'équipe elle-même interagit avec, sur place, à l'intérieur, le thérapeute et son co-thérapeute éventuellement. Ils peuvent être deux. Et derrière, il peut y avoir une à deux personnes aussi, donc pour prendre des notes et aussi filmer ce qui se passe en fait dans la salle. Le principe, en fait, c'est que ceux qui sont dans la salle sont immergés dans la famille. Ils constituent finalement une espèce de système interne thérapeutique, mais qui ne voit pas tout, qui ne peut pas tout voir. Donc ce qui peut se passer en salle, qui n'est pas visible pour les thérapeutes qui sont là, il y a donc l'aide de l'autre côté, de ceux qui regardent fonctionner les thérapeutes avec les familles, et du coup, ils peuvent repérer des aspects qui sont des aspects sur lesquels il faut plus s'attarder, plus reprendre, parce qu'à l'évidence, il peut y avoir à travers ça, appuyer sur certains aspects qui semblent importants, pas tant parce que c'est le thérapeute qui possède une quelconque solution, c'est parce qu'en fait, à travers ce qu'ils peuvent présenter, eux, de leur famille, de leur façon de fonctionner, ce qui transparaît, c'est des règles de fonctionnement de la famille. Des règles explicites, mais des règles aussi qui sont implicites, qui ne sont pas, qu'on pratique, mais on ne sait pas qu'en fait on fonctionne avec ces règles-là. Et l'idée, c'est de mettre ça à jour. L'espace étant considéré comme un espace neutre et bienveillant, tout peut se dire, effectivement, sachant que c'est couvert par le secret médical. Donc les gens peuvent effectivement échanger. Lorsqu'il y a des points qui sont des points sensibles, qui provoquent des résistances, on ne va pas appuyer dessus. On ne va pas du tout appuyer dessus. C'est aux familles de ramener ce qu'il faut, peut-être ne pas ramener du tout, mais de trouver des alternatives en fait, pour contourner un problème comme ça à travers une expérience passée. La thérapie en elle-même peut durer. Elle peut durer 10, 20 séances. Mais elle peut aussi être une thérapie très brève en réalité, parce qu'on est confronté à des familles qui ne sont pas vraiment prêtes. Et ça peut être vraiment quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Pas forcément sans résultat, parce que quoi qu'on fasse, il y a une rétroaction de toute façon à partir de ce qui se passe ici. Et donc, ils vont continuer de travailler dessus. Il se peut qu'ils reviennent, mais il se peut qu'ils trouvent aussi, à travers aussi la créativité qui existe naturellement dans toutes les familles, de quoi pouvoir aussi trouver des réponses qui soient des réponses adéquates, en tout cas à moindre perte d'énergie pour les uns et les autres et pour les composants du système.
Les psychiatres et psychologues qui sont directement, donc qui interviennent vraiment sur les thérapies familiales. Ils sont au nombre de 4 pour tout le département ?
Oui, seulement 4. On est très loin en fait du nombre qui était le premier nombre en fait théorique de présence au niveau des thérapies. Il nous manque au moins un psychologue et un thérapeute, et en fait 2 psychothérapeutes au moins, pour retrouver seulement la possibilité de fonctionner un peu comme on a pu fonctionner avant la Covid déjà.
Parce que vous avez évoqué tout à l'heure effectivement un épuisement du personnel et une file d'attente pour les thérapies familiales qui augmente, et donc des familles qui sont aussi en fragilité.
Tout à fait. C'est tout le problème, justement, et c'est toute l'interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui sur quelque chose qui pénalise finalement toute une population qui a absolument besoin de trouver des alternatives à des moments de crise et qui ne peut pas le faire seul et qui a besoin de ces espaces-là. Alors, donner des rendez-vous qui s'espacent après sur 2, 3, 4 mois, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça pour des familles. Ce sont des familles en détresse. C'est un risque majeur.
Vous écoutez toujours à la JT du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Bon voilà, on va parler sport dans quelques instants. Oh, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que le sport n'est pas mon fort. J'ai plus une tendance à être matinale, mais pour traîner en pyjama d'ailleurs. C'est le nom de l'artiste que l'on écoute tout de suite. Pyjama, qui nous chante son titre, Radio Girl. Écoutez. Du côté des sports en Mayenne, pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui Mathieu pour le journal des sports.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Mathieu, on commence ce journal par le 4e tour de la Coupe de France avec le Stade Mayennais.
Effectivement Margot, avec le 4e tour qui s'est déroulé le week-end dernier. Et on parle souvent de la magie de la Coupe, mais cette fois elle n'a pas eu lieu pour le Stade Mayennais vendredi dernier. Au Parc des Sports, les Mayennais n'ont rien pu faire. Ils se sont inclinés lourdement 6-0 face aux Herbiers au terme d'un match à sens unique. Les Herbiers d'ailleurs, équipe de National 2, l'équivalent si vous voulez de la 4e division, mais surtout finaliste de l'édition 2018. Battu 9-0 par Rodez, 9-0 l'an passé au stade du 9e tour, le Stade Mayennais quitte cette fois la compétition dès le 4e tour. Ce week-end, d'autres clubs mayennais ont également disputé leur 4e tour, opposant des clubs de départemental à des clubs régionaux. Pour les qualifiés pour le cinquième tour, on compte le Louvernais Sport, l'USCP Montsûr, l'US Changé, Dobrère signé FC ou encore Saint-Pierre-Port-Brillet. A noter aussi que le tirage au sort pour désigner les affiches du cinquième tour aura lieu ce mercredi à 19h.
On continue avec le football, mais cette fois avec le stade Lavallois qui régale le public dans une semaine parfaite.
Exactement, ce vendredi à Le Basser, les Lavallois ont enchaîné une troisième victoire consécutive face à Pau en s'imposant 3-1 grâce à Jimmy Roy, Malik Djoukounté son penalty et Malik Selouki. D'ailleurs, ce dernier a inscrit son quatrième but de la saison. Grâce à cette victoire, le stade Lavallois compte 11 points et se classe 9e du championnat de Ligue 2. En une semaine, Laval a enchaîné une victoire face au Red Star 3-0, un succès sur la pelouse de Rodez 3-1, avant de surclasser Pau. 3 succès, 9 buts marqués et un but encaissé, un carton plein. De quoi retrouver le sourire après un début de saison compliqué, comme je vous l'avais d'ailleurs expliqué lors de ma première chronique de l'année. Vendredi soir, j'étais d'ailleurs au stade et j'ai pu observer des sourires, de la joie et de l'enthousiasme sur les visages des auditeurs.
Du futsal maintenant avec l'étoile lavalloise qui se prépare dans l'anonymat le plus complet.
Dans l'anonymat, oui, dû notamment à la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment en Ouzbékistan. D'ailleurs, deux Lavallois font partie de l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale face au Paraguay qui aura lieu aujourd'hui à 14h30. Il s'agit de Abdessamad Mohamed et de Wassini Guirio. Avec, on l'espère, une victoire au bout. En attendant, l'étoile lavalloise se prépare dans l'anonymat avec des matchs amicaux avant la Ligue des Champions et le début du championnat. Le premier a lieu face à Rennes et une victoire 3-2, et un autre face à Nantes et avec un succès 6-2.
On passe avec le volleyball avec les débuts réussis pour l'ASPTT de Laval à domicile.
C'est ça, exactement. L'ASPTT a eu à disputer à domicile son premier match de la saison avec la réception de Sartrouville, promu en N2. Face à Sartrouville, Laval est sorti vainqueur 3-2 au terme d'un match, pour vous dire, très serré, en étant mené à 2 reprises, lors du premier set, 16-25, et lors du troisième set, 25-23, avant finalement, heureusement, de l'emporter lors du quatrième et cinquième set, 25-22, 15-9.
On termine ce journal des sports par le rugby et le nouveau récital des Lavallois à l'extérieur face au stade Trier.
C'est ça. Large vainqueur de 41-15 lors de la première journée de Régional 2 avec 5 essais marqués, les Lavallois ont de nouveau brillé offensivement lors de la deuxième journée de championnat. Face à Trier, à l'extérieur, les Lavallois s'imposent 65-27 et enchaînent un deuxième succès de rang. Un bon début pour le RC Lavallois après avoir obtenu administrativement son maintien en Régional 2 la saison passée. Je souhaite aussi conclure ce journal par quelques rendez-vous, comme par exemple le déplacement du stade Lavallois sur la pelouse du Paris FC vendredi prochain, mais aussi un déplacement risé le 6 octobre pour les volleyeurs de la SPTT, et enfin la réception du COP Pontlieu pour les Lavallois. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
Eh bien, merci Mathieu, à très vite. Voilà, l'agité du local s'arrête ici. Merci à l'équipe du kiosque d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci à Mathieu pour son point sur l'actualité sportive mayennaise. L'agité s'arrête mais laisse place à d'autres émissions. Et laissez-moi vous dire que votre soirée commencera à 19h avec Solénoïde, une émission qui permet de démarrer la semaine tout en douceur avec des musiques un peu planantes, ethniques et même cinématographiques. Et oui, tout ça pour commencer la soirée. Et ensuite, place à la discothèque d'un de nos bénévoles, un membre de la radio, nous sort ses vieux vinyles ou ses petits plaisirs musicaux récents. En tout cas, il nous embarque dans sa discothèque et ça commence à 20h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous serons en compagnie de l'équipe Pampa, Maëva et Steven de l'association Tribu à Mayenne. D'ici là, couvrez-vous bien, prenez soin de vous et faites-le bien.
Ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.